Mais je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutent à bord de leur véhicule. Un autre de ces lundis matins, d'un autre de ces matins tout court. Lundi, mardi, mercredi, allez-y autant qu'on veut. Là, c'est la pagaille encore ce matin. Et sincèrement, je veux dire, tous les matins, on a la confirmation que les gens du ministère des Transports, les gens qui travaillent dans l'industrie des cônes, voulez-vous m'expliquer pourquoi ce matin, 8h30, sur l'autoroute Ville-Marie, où tout le monde arrive de la Rive-Sud, en dessous du pont Victoria, on enlevait des cônes? Laisse-les là une heure de plus. Là. On les a eu tout le week-end, ça nous a empêchés d'aller au centre-ville. Fait que quand même qu'ils seraient là une heure de plus, on mourra pas personne. Mais évite de bloquer cette avenue-là. C'était l'enfer. Puis encore pire que ça, le bordel le plus total. Tu sais, pas de jugeote. Ils ont pas de jugeote. C'est compliqué, ça, essayer de voir. Attends, l'heure de pointe finit à quelle heure? Dis 10 heures, OK? À partir de 10 heures, là, tu peux. Puis les camions qui arrivent en ville. Il y avait un gars ce matin avec un gros 10 roues. Ici, là, juste à côté de nos bureaux, là, en plein cœur de Montréal. Il transporte du grain. Je sais pas, là, mais je me dis, où est-ce qu'il va, lui? Il va où avec son grain? Écoutez, ça, c'est de même tous les matins. Ça, c'est mon état d'esprit de ce matin. Mais grâce à vous, je vais quand même passer une bonne matinée. Je tiens à saluer quelqu'un que j'aime profondément ce matin. Tout à l'heure, bien sûr, vous pourrez me dire plein de bonnes choses pour elle parce qu'elle prend toutes vos énergies. C'est mon amie Joanne Fontaine qui, on l'a peut-être pas beaucoup mentionné, et comme la cérémonie a eu lieu hier après-midi, non diffusée, ben c'est peut-être passé un peu à côté des médias, mais toujours est-il que Joanne Fontaine a gagné un Gémeaux, enfin un Gémeaux, pour meilleur rôle de soutien dans une série dramatique pour son rôle de la mère dans L'Imposteur. Elle était fabuleuse, si vous l'avez vue. Elle jouait une mère aveugle. C'était vraiment un rôle qu'elle personnifiait avec tout le talent qu'elle a. Et on est allé la surprendre vendredi parce que vous savez que Joanne est très malade. Le cancer qu'elle trimballe depuis 8 ans, à qui elle fait la vie dure, est en train de gagner la bataille. Mais elle a tenu à être sur le tapis rouge hier. Elle a été présente. Et on avait fait un vidéo avec elle vendredi, sachant qu'elle aurait peut-être de la difficulté à remercier au cas où elle gagnait. Et comme elle gagnait, on est allé lui remettre le Gémeaux chez elle. Et je peux vous dire qu'elle y croyait pas. Mais je veux juste la saluer, je veux juste saluer tous les gens qui passent à travers ce genre de difficultés, la maladie qui affaiblit, la maladie qui fait que peu à peu, ben, ta vie tire à sa fin. Mais je peux juste vous dire à quel point Joanne est encore pleine de force et d'énergie, à quel point, malgré son état de santé qui la diminue, qui fait qu'elle est obligée d'être en chaise roulante, c'est encore la Joanne qui a de l'espoir. Alors, je voulais juste, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir lui envoyer également des bonnes pensées, de l'énergie. Joanne, on t'aime beaucoup. Bravo pour ce Gémeaux. Voici un petit extrait de ce qu'elle a dit d'ailleurs.
Merci de m'avoir permis de jouer.
Alors, comme c'est Joanne, ben, ça finit toujours comme ça, en criant, en étant complètement folle. Voyez-vous, elle l'a encore, cette énergie-là. C'était vraiment... elle a eu même une ovation hier après-midi au Gémeaux. Je voulais juste vous dire ça parce que c'était important pour moi. On va enchaîner avec... oui, je vous parlais de circulation, je vous parlais de congestion. Et si vous êtes encore pris dans le trafic, ben rassurez-vous parce que vous n'êtes pas tout seul. C'est la seule affaire qui peut nous rassurer. C'est un problème qui pèse de plus en plus lourd et pas juste sur nos vies personnelles, mais sur l'économie. On apprenait il y a quelques jours que les coûts associés à la congestion dans la grande région de Montréal pourraient atteindre les 4,2 milliards. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Mm-hmm. Je veux dire, ça finit par être beaucoup d'argent. Tout ça, évidemment, c'est les heures perdues dans le trafic, l'essence, l'usure de votre voiture. C'est toutes les affaires qu'on oublie de calculer d'ailleurs. Alors, moi, je voulais vous poser la question ce matin. Vous, là, l'avez-vous fait le petit calcul de combien vous coûte cette congestion? Le fait d'être pogné là-dedans tous les matins, ça vous coûte quoi, là, à part empiéter lourdement sur votre qualité de vie? Toby Lamontagne est commerçant sur le boulevard Saint-Laurent. Merci d'être là, Toby.
Salut, Isabelle.
T'es un père de famille, entrepreneur. Écoute, j'ai été très surprise d'apprendre que tu songeais peut-être à déménager ton commerce.
On espérait pouvoir évaluer ces possibilités de déménager, mais c'est rendu presque impossible parce qu'on aurait trop à perdre. Alors là, ce qu'on regarde, c'est la croissance qu'on entrevoit, c'est en dehors de Montréal. Donc, dans ce sens-là, absolument, on a mis de côté tout potentiel de croissance à Montréal. Sinon, par la multiplication des points de vente. Là. On est sur le boulevard Saint-Laurent, nous, depuis 10 ans.
Toi, tu as une épicerie en vrac. Ouais,
une épicerie en vrac, zéro déchet. Donc, on est très, très, très tendance. On est là depuis 45 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis propriétaire de la boutique avec ma conjointe, Sarah. Et puis, je te dirais que depuis une dizaine d'années, les statistiques dont tu parles, on les ressent énormément. Pour nous, ça change tout. C'est fondamental dans notre modèle d'affaires, dans ce qu'on entrevoit comme potentiel de développement. On a presque mis de côté, nous, tout espoir de croissance.
Parce que les gens vont plus sur le boulevard Saint-Laurent?
Ben, pourquoi, en fait, c'est que les habitudes ont complètement changé. 92 % de la clientèle sur le boulevard Saint-Laurent est à pied et demeure à moins d'un kilomètre du boulevard Saint-Laurent. Alors nous, notre périmètre, notre bassin de clients est très, très, très restreint. On est enclavé, en fait. À Montréal, les gens peut-être le voient pas, mais on ne circule même plus entre les quartiers. Maintenant, c'est des micro-commerces qui se sont installés dans des rues parallèles aux artères commerciales. Ils ont comblé les besoins de façon micro. Alors, on a par exemple une centaine de boulangeries, mais pas une grosse boulangerie qui fait vraiment des profits, par exemple. On voit beaucoup de roulements dans les entreprises. Oui, il y a plein de petits restaurants, c'est super. Mais derrière chaque restaurant qui ouvre, c'est un restaurant qui a fermé et c'est une histoire d'échec d'un entrepreneur qui a mordu la poussière. Ouais. Et on sait que le nouveau qui va ouvrir à sa place a presque pas plus de chances de réussir non plus. Alors, peut-être que pour les quartiers, ça amène une certaine vivacité, ça amène une diversité, ça amène de la nouveauté. Mais pour un entrepreneur, c'est une multiplication de petites histoires de drames puis d'échecs. On finit par se lasser puis on va investir ailleurs. Alors, là-dedans.
Ouais. Nonobstant toutes les difficultés aussi qui se rajoutent, genre la ville de Montréal, ses contraventions. Écoute, j'ai un bon exemple. Hier soir, là, puis je savais qu'on allait probablement en parler ce matin. Hier soir, il est 10h30. On est sur une terrasse dans un restaurant dans le Vieux-Montréal. Tout autour, il y a un commerce sur deux qui a fermé parce que ça fait des années qu'ils sont dans l'excavation, les tuyaux, les combles. Fait que là, on se dit, on va encourager un restaurateur. Là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Une petite voiture de 10h30, ils sont encore dimanche soir quand même. Une petite voiture arrivée de la ville, là, les aubergines, là, ceux qui te mettent des contraventions, qui a estimé qu'on n'a pas eu de contravention parce qu'on est parti de la terrasse, on a couru pour bouger la voiture. Mais elle estimait que on dépassait, le pare-choc dépassait et on empiétait sur un espace de borne-fontaine.
Ouais.
Il n'y a personne. On était les seuls sur la maudite terrasse. Ils étaient contents, les restaurateurs, qu'on soit là. T'sais, tu te dis, on est vraiment il y a vraiment du monde qui t'empêche de fonctionner.
Oui, puis je pense que ça, c'est devenu presque mythique, Montréal. Je pense que les gens ont peur maintenant de venir à Montréal. Puis c'est dommage.
Tu te fais chier quand tu viens à Montréal, tu te fais suer dessus.
Je vous l'accorde pour ceux de l'extérieur. Oui. Nous, les Montréalais, j'avoue, là, moi, à Montréal, ça va bien.
Excusez-moi, là, mais je trouvais ça assez.
Ouais. Mais je dirais, là, puis pour conclure là-dessus, là, nous, par exemple, moi, j'évalue que j'ai beaucoup plus de clients touristes européens ou américains que j'ai de gens de Longueuil. C'est aussi grave que ça, tu sais. Ouais. Alors, c'est clair que ça change toute la perspective au niveau du développement des affaires. Et nous, ça nous décourage grandement d'investir davantage, en tout cas, ça, c'est certain.
Guy Hébert est directeur de l'information de Transport Magazine, de l'écho du transport et du magazine du circuit industriel. Merci d'être là, Guy.
Bonjour,
un gars habitué de parler de transport, justement. Le coût de la construction et des travaux.
De tout ça,
de la congestion.
Mais le coût, ce que tu dis, ça cause la congestion, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est quoi les causes de cette congestion-là qu'on vit, là, qui augmente depuis, doublé depuis 10 ans, qui a sextuplé depuis 22 ans? Alors, ça n'arrête pas de grossir.
Mais les causes, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas fait certaines décisions, on n'a pas pris des décisions à une certaine époque.
Là, tout a été pris en même temps, les gros travaux.
Mais ça, on le sait. Ça, on la connaît, cette cause-là.
Alors, on essaie de dire aux gens, prenez pas l'auto, prenez le transport en commun, mais le transport en commun n'est pas encore fiable. Pour bien des gens, surtout si tu restes à l'extérieur de Montréal, là, c'est pas sûr que ton train va passer pour quelque raison, que ce soit en juin ou en janvier. C'est pas la cause. Et puis après ça, le manque de coordination entre tous les responsables des chantiers. Je dirais pas les constructeurs, eux autres ils ont un contrat sur un chantier puis ils font ce qu'ils ont à faire. C'est qu'il n'y a pas de coordination qui dit qu'on va fermer ce rue-là aujourd'hui, mais on va diriger le monde vers ce rue-là, mais on vérifie pas. C'est facile pour la ville de Montréal, vous allez prendre ce rue-là, mais le ministère des Transports est sur l'autre rue. Alors, les gens s'affûtent, ils tournent en rond, ils n'avancent pas, ils viennent de plus en plus frustrés. Ça, c'est quand tu es arrivé à Montréal. Quand tu es à l'extérieur, les bouchons, là, que ce soit le tunnel qui est rendu, le trafic est aussi pire dans les deux sens maintenant, quelle que soit l'heure de la journée.
Quelle que soit l'heure de la journée, c'est ça, effectivement.
Ça n'a pas de bon sens, là. Alors, mais dis aux gens d'aller prendre le transport en commun, puis ça les intéresse pas. Puis il y a la dernière chose, l'auto solo. C'est le camion qui est seul, je vais protéger le camion un peu. Il n'a pas le choix, il travaille, il faut qu'il se rende à telle place. C'est l'expéditeur souvent qui demande l'heure et non pas le transporteur.
OK, mais regarde, je prends mon exemple de ce matin. Un 10 roues qui transporte du grain, qui se retrouve au centre-ville de Montréal à 8h30 du matin. Qu'est-ce qu'il fait là?
Il s'en va livrer en quelque part à Montréal.
OK, peux-tu y aller comme une heure et demie plus tard?
Ça dépend de son client.
Mais au centre-ville de Montréal, du grain, là, je pense que le gars, il était écarté. Là. Je pense qu'il s'était perdu. Il est arrivé dans le vieux Montréal. Puis je pense qu'il s'est rendu compte que tout était bloqué, fait qu'il s'est ramassé là.
Parce que les camionneurs, aujourd'hui encore plus, n'aiment pas perdre de temps dans le trafic. Parce que les autres s'empiètent sur leur temps de travail. Avec la nouvelle consignation électronique, ils n'ont pas le choix, ils ont tant d'heures à travailler. S'ils traînent dans le trafic, s'ils traînent chez un client à attendre une expédition, ils sont pognés parce qu'à un moment donné, quand ils arrivent à leur 10 heures, ils ne peuvent plus avancer. Alors, ils sont pris, tu ne peux pas toujours les blâmer. Maintenant, quand un transporteur reçoit une commande, un appel, puis le gars dit « j'ai du stock, viens le chercher », es-tu prêt? Enfin, je ne vais pas envoyer mon camion pour rien.
Ben, c'est sûr.
Envoyez-les, c'est toujours... Non, es-tu prêt ou il n'est pas prêt? Faut que ça vienne, que tout le monde participe. Je parle du côté camionnage. Mais dans le reste... Ceux qui sont tout seuls à leur voiture tout le temps. On va parler de covoiturage un peu. L'auto-solo est un des gros responsables.
De la congestion, d'après toi? Ben, ça tombe bien parce qu'on a Marc-Antoine Ducas qui est avec nous. Il est président fondateur de Netlift. Vous savez, cette entreprise dont Jean-François Lisée a vanté les grands mérites. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'être là. Évidemment, bon, la question de l'auto-solo, le covoiturage, ça vous préoccupe beaucoup parce que, en fait, vous avez voulu répondre à ça avec cette application. Explique un peu ce que c'est là, pour les gens qui auraient manqué ça, Netlift.
Oui, c'est correct de se tromper un peu. On est habitué. L'idée, je partage parfaitement ce que Guy vient de dire, la principale cause de la congestion repose dans le fait que actuellement, on dit quelques chiffres, là, on est 2 millions d'humains à se déplacer dans l'heure de pointe le matin dans le Grand Montréal. Okay? Sur ces 2 millions-là, il y en a à peu près 100 000 dans les modes légers, le vélo, la marche, les modes partagés. On est 400 000 dans le transport collectif, puis on est quand même relativement tassé. Donc, il y a actuellement une saturation des réseaux. Et on est 1,5 million à conduire seul. Okay? Mais quand les gens qui sont dans nos autos regardent autour, il y a 3 sièges de libre en moyenne. Il y en a qui ont des minivans, il y en a qui ont des Miata. Mais grosso modo, il y a 4,5 millions de sièges libres dans les autos entre 6 et 9 le matin. Autrement dit, c'est 5 fois la capacité de la STM, ça. Et nous, on rejoint parfaitement ce que vous dites. Il y a un flagrant manque de coordination entre les acteurs parce que le Grand Montréal est devenu une courte pointe de décideurs qui ne peuvent pas se parler pour des raisons légales. Tout le monde a beaucoup de bonne volonté. Moi, je ne croise que des gens qui veulent régler le problème. Et là où ça coince, c'est quand ils disent « Ah, j'ai pas le pouvoir de faire ça. » Ah, ça, c'est pas moi, c'est l'ARTM. L'ARTM dit « Pas moi, ça, c'est le ministère. » Le ministère dit « Pas moi, ça, c'est EXO. » EXO va se revirer de bord. Ça, c'est l'arrondissement et tout ça. Alors, entre la planification d'un travail de rue quelque part qui va bloquer la livraison parce que CargoM n'est pas capable d'envoyer son data à l'autre affaire, moi, je suis un gars de software, là, ça se règle assez bien, ça. Mais actuellement, la réglementation empêche tout le monde de se parler, de se coordonner, de gérer ça sur le plan économique, mais les solutions existent. Puis à votre question, le 4 milliards, il est où? Posez la question aux entreprises. Là, Toby a parlé de déménager. Nous autres, c'est des grandes institutions financières, c'est des grands employeurs de dizaines de milliers d'employés qui appellent en disant « Je pense qu'on est obligé de déménager. » Parce que là, nous autres, les pertes qu'on a, c'est en millions de dollars. On a parlé de la pénurie de main-d'œuvre là au Québec. Mais il y a des gens pour qui aller travailler à Montréal, c'est devenu un « deal breaker ». Les gens de Deux-Montagnes actuellement qui ont des questionnements sérieux à propos du train sont en train de vendre leur maison. Le maire de Deux-Montagnes, il y a un problème de real estate sérieux en ce moment dans les mains. Là. Et quand on additionne l'ensemble de ces choses-là, on arrive rapidement...
Pourquoi c'est très mal desservi, Deux-Montagnes?
Bien, c'est-à-dire que la ligne de train actuellement est exceptionnellement bonne. Les gens sont allés installer leur jeune famille là-bas parce que le prix des maisons est abordable. Ils sont dans le centre-ville en 45 minutes. C'est exceptionnel.
Quand ça marche.
Moi, je suis à Montréal. Ça me prend des fois ça, me rendre au bureau, dans mon bureau du Vieux-Montréal. Mais donc, le train, on est tous d'accord pour dire que le transport collectif, quand c'est efficace, c'est imbattable. Mais quand j'habite sur la Couronne-Nord puis que je travaille sur la Couronne-Nord, j'ai un choix. Il n'y en a pas de vélo partage. Là. Donc, moi, je fais partie de ceux qui militent pour des nouveaux modes de transport, mais j'ai aussi un certain degré de réalisme. Quand on élève une jeune famille, moi, j'ai 3 enfants, puis à l'époque où il était à la garderie, j'aurais pas pu faire 20 km de vélo, puis Dieu sait que je suis cycliste, pour aller conduire les enfants pendant l'hiver. On a été des abonnés de Communauto jusqu'à mon 2e bébé. Après ça, ma femme m'a dit, écoute, là,
Ça
pense
suffit.
Il faudrait qu'on pense à une auto. Parce que c'est le fun, l'autobus avec deux poussettes, mais quand tout le monde est debout, ça, c'est un peu intense. Alors, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais moi, ce qui m'intéresse, on me disait, c'est la congestion. C'est le Grand Montréal qui est en train d'étouffer sous son poids.
Ah, ouais,
parce que même si les solutions existent à tous les niveaux, surtout au niveau technologique, on est vraiment, ça fait des années, là, on est vraiment incapable d'aller plus loin à grand volume. Mais tout le monde veut que ça fonctionne.
Mm. C'est quand même fascinant de voir. Puis c'est une conclusion que j'ai déjà entendue, oui. Marc-Antoine. Tout le monde veut que ça fonctionne. Personne n'est de mauvaise foi, mais ça marche pas.
La coordination, on a essayé. Donc, Denis Coderre avait créé un bureau de la coordination qui était supposé fonctionner, que tout le monde était supposé se parler. Ils se réunissaient je ne sais pas combien de fois quand ils ont commencé les travaux sur Champlain. Je sais pas ce qui est arrivé à cet organisme-là, là, mais je veux dire, on n'entend pas parler, puis ils ne se lèvent surtout pas le petit doigt quand ils disent « ça va mal ». Ils ne viennent pas dire « c'est notre faute ». Mais est-ce que, d'autres questions, une fois que les travaux, parce qu'on a des travaux majeurs, puis on a encore pour des années, je veux dire, quand le pont Samuel de Champlain va être fini,
c'est
on
Turcot, va passer là. Là, on va vraiment commencer. Oui, il y a le pont tunnel aussi.
En plus. Ouais. Ça va se chevaucher encore pour 10 ans, je ne sais pas. Là.
Sans doute,
facilement.
Ouais.
Est-ce qu'après ça, avec le REM qui va arriver, avec d'autres choses qui peuvent améliorer le transport, l'offre de transport en commun, ça va se résorber un peu. Est-ce que les gens vont être plus incités à prendre le transport en commun? Parce que c'est pas quelque chose qui vient naturel chez tout le monde. T'as beau dire que tu vas le rendre gratuit. Pour les étudiants, je trouve ça fantastique dans les promesses électorales.
Ça n'a pas d'impact.
Mais pour les personnes âgées, ils ne prennent pas en ce moment. C'est pas...
J'ai jamais entendu pas le payer.
Non, mais j'ai jamais entendu la FADOC ou qui que ce soit se plaindre...
Du prix.
Du prix. Ils ne sont pas habitués à le prendre. Ils n'ont pas été... Fait, ils ont 70 ans, ils ont 75 ans.
Mais, tu sais, on pourrait parler aussi de... Est-ce que c'est facile d'utiliser le transport en commun? Ça pourrait être une discussion d'une heure. Moi, je pense que la réponse, c'est non.
Non,
si t'as pas ton 3 piastres et 25, ça te prend ta carte. Si t'as pas ta carte, ben ça te prend la... Voyons donc, c'est pas simple. Au moment où vous dites que vous êtes un gars de software, ben comment ils veulent
avec
le faire?
Avec l'ESTM, on a commencé depuis un an à travailler sur ce projet d'intégration-là.
Ben, mais il est temps que ça arrive.
Bien sûr, mais encore une fois... Il y a une multitude de raisons pour lesquelles... Encore une fois, c'est juridique. La STM est all-in là-dedans, tous les partenaires de la mobilité. Mais quand on commence à regarder le cadre juridique, le cadre fiscal et tout ça, par exemple, la STM ne peut pas accumuler des données personnelles sur les gens. Il faudrait changer les lois pour pouvoir faire une intégration dans une application mobile. Alors, on veut le faire, mais il faut dire au gouvernement...
Tout le monde récolte des données personnelles sur nous puis ne nous demande pas la permission, mais la STM ne peut pas...
Mais Isabelle, vous savez qu'il y a 10 ans, le 10 ans, le smartphone n'existait pas.
Ouais.
Mais une société de
maintenant,
transport...
Maintenant, il coûte 1300 piastres.
Oui,
on va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite. Bien sûr, j'ai besoin de vos opinions là-dessus parce que je veux avoir le pouls de tous ces travailleurs qui vont, malgré tout, sur les routes le matin.
Pas
qui
le
vont...
choix.
Ben non, pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé comme alternative? Mais surtout, est-ce que vous avez évalué le coût de cette congestion sur votre vie à vous? Parce que quand on parle de 4,2 milliards... de pertes, ça, ce sont les pertes évaluées là, sur l'économie de la grande région de Montréal. C'est pas rien, là, 4 milliards, plus de 4 milliards de dollars. Écoutez, là, c'est énorme. Dans votre vie, à vous, est-ce que vous estimez que le montant, c'est X, Y? Dites-moi, 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant partout au Québec le 1-866-790-9850. Nous avons Vincent avec nous. Bonjour Vincent, racontez-moi un peu vous ce que vous vivez et combien ça vous coûte cette congestion tous les matins? C'est bien de voir que vous prenez ça avec le sourire, Vincent.
Oui, ben écoutez, je vais vous repartager. Moi, je l'ai évalué à peu près à 2 500-3 000 $ par mois.
Oh boy, par mois?
Oui, en étant en rendez-vous perdu, rendez-vous appointé qu'on doit se désengager parce que finalement on arrive, on prend une boîte de contournement puis on est repris. Enfin bref, à la fin de la journée, il y a longtemps que j'ai fait cette évaluation là, mais je vais vous partager quelque chose que j'ai partagé déjà avec votre collègue Monsieur Drainville. Je fais du commerce avec la Chine. Il y a un seul modèle. Je voyage beaucoup là, mais il y a un seul modèle qui vaille, c'est le modèle chinois. Je vous explique. Je vais vous donner un exemple. La rue Sainte-Catherine.
Mm-hmm.
Les Chinois vont faire la chose suivante. Ils décident, par exemple, de refaire la rue Sainte-Catherine, mais au complet. Eau, aqueduc, fibre optique, gaz. Ils vont tout faire en même temps. Ils vont fermer Sainte-Catherine 2 semaines. Ils mettent 500 camions grues. Ils compensent les commerçants. Ils vont demander aux commerçants combien vous allez faire de profit ou vous perdrez de profit pendant les 2 semaines ou 3 semaines que vont durer les travaux. On la ferme est-ouest. On ferme les commerces. Jour et nuit, Vous avez 2000 camions, et c'est terminé. On passe à une autre rue, on passe à une autre axe. Alors, on fait un chantier dans l'est, un chantier dans l'ouest, un chantier dans le sud, et on recommence.
Ouais. Ils donnent un grand coup, comme on dit ici.
Coup. Ils vous refont métropolitain en 2 semaines et demie. Pour très contraintes, ils démolissent en une nuit l'équivalent du métropolitain au complet, ils mettent ça à terre, le lendemain, on commence à mettre les poutrelles qui ont été préparées, et c'est fait. Et parallèlement au transport en commun, j'entendais tous vos invités, qui sont très pertinents, et le covoiturage, voilà. Mais tout ça, le modèle chinois est le modèle efficace, où il n'y a pas 12 000 bureaux, BAP, consultations. Ils décident de le faire. Ils sont 1,4 milliard. Imaginez s'il fallait consulter tout le monde, avoir l'avis de tout le monde. Alors, les Chinois ont décidé, il y a 30 ans, ils étaient en vélo. Aujourd'hui, allez voir Shanghai, allez voir Guangzhou, allez voir Huazhou, allez voir toutes ces villes-là. On a l'air d'être d'un siècle.
C'est très vrai ce que vous dites, mais c'est, en même temps, c'est un changement de mentalité. C'est complètement autre chose.
Mais imaginez, là, vous parlez de 4 milliards. Si vous demandiez à n'importe quel Montréalais, commerçant ou privé, qui utilise une auto, est-ce que vous seriez prêt à dépenser 2 000, 3 000 $ tout de suite sous la forme d'un prêt que le gouvernement, peu importe, pour financer ces travaux-là? Demandez à quelqu'un, un commerçant, c'est vous qui parliez de restaurants qui ouvrent, d'autres qui ferment, c'est tellement d'aléas. Demandez à un commerçant s'il préfère fermer 2 semaines, quitte à ne même pas être compensé, et qu'après 2 semaines, qu'il aille à Cancun et qu'il revienne et que sa rue soit belle, propre et attrayante, versus être congestionné là, puis de voir tous les autres axes, parce qu'il n'y a pas que là.
Tout à fait.
Partout à la fois. Alors, les Chinois ont réglé ça depuis longtemps. Ils consultent, ils compensent, et largement, ils viennent voir les commerçants.
Merci beaucoup. Je vais demander à Tommy Lamontagne, Cancun, tu vas à Cancun, puis tu reviens, puis ta rue est faite.
Moi, Isabelle, j'ai vécu les travaux de la rue Saint-Laurent, les mythiques travaux de la rue Saint-Laurent, qui ont duré plus de 2 ans, qui nous ont fait perdre la moitié de notre chiffre d'affaires. Ça nous a pris 6 ans. Remonter la pente, et on fait partie des chanceux parce qu'on était une institution sur le boulevard Saint-Laurent à avoir survécu. Ça m'avait offert de le faire même en 2 mois, même en 6 mois, même, je veux dire.
Parce que 2 semaines, c'est peut-être un peu court, mais.
C'est sûr que, bon, la dictature aide un peu.
Ouais,
mais,
exact.
Mais disons qu'il y a il y a quand même un juste milieu à faire, mais nous, plutôt que d'avoir 2000 employés durant la nuit, on avait des chantiers qui étaient désertés pendant des mois parce que c'était le scandale la collusion. Ouais. C'est là que ça a commencé. C'est là qu'on on a vraiment réalisé que c'était aberrant. Parce qu'on le voyait, le boulevard Saint-Laurent, pendant 2 mois, j'ai déjà vu Isabelle, pendant 2 mois, rien. La rue était dévastée. Et on a appris que l'entrepreneur avait un autre contrat ailleurs et avait mis en surpause le contrat sur Saint-Laurent. Le boulevard Saint-Laurent, Isabelle, fermé pendant 2 mois. C'est des choses comme ça qui se passent ici à Montréal.
On a Roselyne avec nous. Bonjour, Roselyne.
Oui, bonjour. Nous, on a calculé au niveau de l'essence. Nous autres, on demeure à Radun. On travaille à Montréal. Donc,
Hey.
550 $ par mois d'essence, plus le pont payant, 150 $. Fait qu'on a décidé en janvier dernier, on a loué un pied à terre à Montréal.
C'est extraordinaire.
C'est sûr que c'est la bonne solution parce que ça coûte pas vraiment plus cher. Si tu calcules, ça me coûte 80 $ par semaine de plus pour sauver 4 heures de trafic par jour. Ça prend juste 10 minutes. Maintenant, c'est génial. Mais l'autre chose que moi, j'ai été à Repentigny longtemps. Ils ont fermé, ils ont beaucoup diminué les stationnements incitatifs à Radisson et ailleurs. Ça, c'est une erreur. On devrait en rajouter des stationnements incitatifs pour que ça devienne rentable pour les automobilistes du 450 de prendre les transports en commun. Essayez de vous stationner sur le bord d'un métro à Montréal, là. C'est des no parking partout. Alors, ça serait peut-être quelque chose à penser pour faciliter la vie limiter les véhicules.
Tout à fait.
Roselyne, vous n'avez pas d'enfant, vous, pour pouvoir avoir un pied à terre à Montréal?
J'en avais avant, mais ils sont tous.
C'est ça, c'est pas une solution pour une jeune famille.
Puis l'autre point, écoutez, 550 $ par mois.
Il faut avoir les moyens aussi.
Oui, c'est ça. On parle de presque plus de 6 000 $ par année.
C'est ça.
Ça, c'est du gaz qu'on brûle, pardon. Moi, je serais très curieux d'entendre si Roselyne était ouverte à ce qu'au départ, chaque matin, on lui compense son essence en échange d'amener quelques personnes de Robin à Montréal.
Vous allez nous parler de votre application, justement, Netlift, après la pause. On s'arrête ici. Dites-moi comment vous évaluez les coûts de la congestion sur votre portefeuille. 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre en tout temps en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite. 4,2 milliards de dollars. Des milliards de dollars perdus dans le trafic. Et je vous pose la question ce matin, Guy, combien ça vous coûte à vous, d'après vous? Vous avez fait des petits calculs?
Oui, moi, je perds beaucoup toutes les semaines dans le transport à aller voir ma clientèle. Moi, je suis représentant technique dans la région de Montréal. C'est terrible. Mes journées ont raccourci facilement de moitié. Je perds 3 heures par jour minimum dans le trafic.
Ouais.
Mais moi, je vois une chose. On a beau de parler de transport en commun et tout ça, c'est beau, c'est parfait, c'est correct. Mais c'est nos infrastructures qui sont mal faites. Finir la 13, finir la 50, finir la 19, il n'y a pas de voie de contournement. Sortir les camions de Montréal. Tous les camions qui s'en vont, ne serait-ce qu'à Québec ou qui s'en vont vers les provinces maritimes ou qui s'en vont vers Toronto, passent tous dans Montréal. Sortez-moi ça de là. Lâchez-moi le transport en commun puis sortez les camions.
Ouais. Puis il y a quelqu'un tout à l'heure, je parlais du camion de grains là, que je voyais ce matin en pleine heure de pointe au centre-ville de Montréal. Puis il y a quelqu'un, Raymond, qui me dit d'abord la farine Montréal est moulue en ville, c'est Red Rose ou Robin Hood sur la rue Notre-Dame. Oui. Mais il était pas sur Notre-Dame. Il était pas dans le vieux Montréal, il était au centre-ville. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il s'était un peu perdu ou peut-être qu'il s'est rabattu là parce que quand vous allez dans ce coin-là, vous avez pas beaucoup de sorties. On est dans une souricière et je suis consciente que les complètement. Ouais.
Puis, on est dans une souricière puis nos infrastructures sont mal faites. J'arrive de Chicago moi dernièrement, là, c'est terrible. À 8h le matin, il y a pas de trafic.
Qu'est-ce qu'ils font?
Ouais. Ici, il y en a, mais ça roule. Gardez juste la 19 qui est censée se rendre jusqu'à la 50. La 50 ne se rend pas là. On prend la 640, la 15, le nouvel échangeur qu'ils ont fait là, qui est un fiasco à mon avis, total. C'est un merdier à tous les soirs. Finir la 13 jusqu'à la 50, qu'elle serait ne serait-ce que juste 2 voies. Sortez. On descend à la 13 pour rentrer dans Montréal, puis on frappe un cul-de-sac au bout.
Ouais, je sais.
Mais il ne faut quand même pas mettre tout le blanc sur les camions.
Non.
Il y a des solutions. À Paris, par exemple, je laisse les camions circuler sur les voies réservées aux autobus et taxis.
Ouais.
Ça allège un peu la congestion. On pourrait faire ça ici. C'est pas quelque chose qui se fait, mais c'est quelque chose à y penser. C'est la même chose pour encourager l'auto. Décourager l'auto.
On vient à la
réglementation. Merci, Guy. Ouais. Réglementation, vous dites, Marc-Antoine Ducamp. On a Marie avec nous. On va parler de Netlif. Là. Marie, bonjour. Les coûts de la congestion sur votre portefeuille, vous avez calculé ça sur le bord de la table un peu vite, là?
Ben oui, j'en ai été victime longtemps. Maintenant, je suis déménagée sur la Rive-Sud. J'ai la chance quand même de pouvoir travailler beaucoup de la maison. Donc, c'est moins un enjeu pour moi, la circulation.
Ouais.
Mais j'habite près d'une gare de train. Mon fils fréquente le cégep à Longueuil, donc on a acheté la carte de train, la carte d'autobus.
Mm-hmm.
Tarif étudiant, 160 $ par mois. Alors moi, je crois que l'enjeu principal, si on veut inciter les gens à prendre davantage le transport en commun...
Si vous dites que c'est trop cher, 160 $ là.
Les coûts du transport en commun, voire même peut-être si, comme société, on se donnait le projet d'explorer la gratuité. Là, mon fils explore l'idée de dire, hey,
ben, il va s'acheter une auto.
Je peux avoir une auto.
Ben oui.
Puis je vais être libre de mon horaire.
Tellement.
Mon train finit à 6 heures, puis le train passe à 8 heures. Fait que là, il est pris là, il attend 2 heures à perdre son temps, il veut s'acheter une voiture, il va lui-même continuer d'engorger la 116. Puis, let's go. Ça va être, parce qu'on pense à notre poche. Puis, bien sûr, on pense à notre temps, à notre qualité de vie. Donc,
non, mais c'est niaiseux, là.
Dans notre poche.
Mais vous avez tellement raison, Marie. Je pense qu'une Versa, là, qui doit coûter comme 10 000 $ c'est moins cher qu'une passe de train. Écoute,
ben
c'est
oui,
ça qui n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
Là, on va contribuer à ça. Sans doute qu'on va décider de l'aider, là. Puis...
Mais votre fils étant dans la jeune génération, peut-être plus ouvert à utiliser des applications, Marie, je passe la parole à Marc-Antoine Ducamp. Merci de votre appel, parce que Netlif,
merci, Marie.
Je trouve ça intéressant, Marc-Antoine, votre application, qui n'est pas du tout Uber.
Non.
Donc, qui ne vient pas titiller négativement l'industrie du taxi.
Ben non, il y a presque 2000 partenaires avec nous de taxi déjà. Là.
Voilà. Alors, expliquez-nous simplement qu'est-ce que c'est exactement.
C'est une application mobile.
Parce que Jean-François Lisée, on ne l'a pas tout compris quand il a parlé.
Il aurait fallu qu'il m'appelle avant. C'est une application mobile de transport planifié. Donc, la grosse différence avec un modèle comme Uber ou Théo ou le taxi, c'est que les modèles de taxi, c'est à la demande. On appuie sur le piton, 5 minutes après, quelqu'un nous ramasse. C'est génial. Il faut le payer, mais c'est génial parce que, ben voilà, j'attends pas, j'ai tout de suite du service. Mais la conséquence, c'est que pour que quelqu'un me ramasse en 5 minutes, j'ai besoin de beaucoup de véhicules stand-by sur le coin de la rue qui vont se présenter pour venir me ramasser. On ne peut pas faire ça. Nous, ce qu'on fait, c'est du transport planifié. Tous les automobilistes, partenaires chez nous et les voyageurs, annoncent à l'avance leurs intentions. Comme ce que les gens viennent d'appeler en disant « Moi, je pars de Ryden le matin, il faut que j'aille au stationnement incitatif, il faut que je sois là à 7h30. »
Je peux embarquer une, j'embarque deux personnes? Absolument. Ça peut être plusieurs personnes.
Okay. Ils font simplement publier qu'ils font une route. Mm-hmm. Puis le soir, à quelle heure ils reviennent. Fait que nous, ce qu'on prend, c'est toute l'information des automobilistes. Il y en a plusieurs dizaines de milliers qui publient sur Netlift tous les jours leur trajet, origine, destination, horaire. Et nous, on prend ça, puis on se base là-dessus pour dire, bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui s'en vient vers le cégep, le métro, l'université, le travail, qui embarque? Alors, les autres vont dire, ben moi, j'embarque. Puis nous, on calcule le prix des billets. Parce qu'il faut effectivement que ce soit abordable. Personne ne peut payer un taxi ou un Uber deux fois par jour. Mais les gens sont peut-être capables de payer 3-4 piastres pour se rendre, par exemple, entre le centre-ville de Montréal puis la rive sud ou Laval ou Deux-Montagnes. Parce qu'on vient de le dire, là, les gens sont prêts à payer. C'est pas par gaieté de cœur qu'ils le font. C'est par absence d'alternative. Mm-hmm. Ils sont là qui payent des autos, du stationnement. Le stationnement en centre-ville, c'est plus de 300 $ par mois. Avec le 550 qu'on vient de parler du gaz, plus l'auto, on est à 1000 par mois. 1000 $ par mois. Puis l'alternative, c'est 150 pour le transport collectif. Fait qu'il y a peut-être un espace entre les deux à examiner. Mm. Puis curieusement, nous, il y a des gens même de Montréal qui n'ont pas d'auto, qui utilisent Netlift matin et soir pour aller travailler. Parce que le temps, pour eux, deux changements de transport collectif, c'est le double du temps, même dans les bouchons, en transport collectif.
Ouais.
Alors, il y a des endroits où on ne peut pas battre le modelo. La ligne orange, on ne battra pas ça. Le train de deux montagnes, c'est exceptionnel. Traverser un pont, jamais.
Mais ce que je retiens, là, c'est quand tu sais que tous les... C'est vraiment pour du... Quand planifier. Tu peux planifier. Quand tu sais que tous les matins, tu pars du point A, tu vas au point B, tout le temps, tu reviens, même chose.
Parce que les gens doivent être au travail à 9h. Il faut que ce soit garderie à 6h. C'est une pièce la minute, la pénalité. Ouais. Alors, si je ne peux pas garantir ça dans un autre mode, ils vont garder leur
moto. Puis le chauffeur est à l'heure.
Actuellement, on est à 98,6% de ponctualité.
Ah ouais.
OK? Donc, on planifie.
Puis c'est payant pour les gens qui conduisent la voiture?
Ben oui, parce qu'on a le droit de... On ne peut pas faire de profit. C'est la deuxième grosse différence avec le modèle Uber. Un chauffeur sur Netlift ne rembourse que ses dépenses. Okay. Et on vient de parler de plusieurs...
C'est pas de profit, mais ça...
À 500 piastres par mois d'essence, ça vient de faire un gros soulagement dans le budget. Et la loi prévoit que quand on est dans le domaine du remboursement, de la compensation des dépenses, il n'y a pas de problème fiscal. C'est même pas imposable. Les gens ont déjà fait cette dépense.
Mais ça dépend si tu t'en vas dans l'espace ou pas, là.
Ça, c'est un autre débat. Mais je me souviens pas si M. Laliberté...
Dans une fusée avec des Russes, ça se peut Ça se peut qu'on trouve que c'est un voyage personnel qui est imposable.
Avez-vous calculé combien ça peut enlever d'auto sur la route?
Oui. Mais ça, c'est avec les jeunes polytechniques. Mais grosso modo, c'est des estimations entre 50 et 100 000 véhicules par matin. Donc, c'est un impact d'à peu près entre 2 et 4 % qu'on appelle, ce qui n'a pas l'air beaucoup. Mais selon
vous
certains
jumelez chercheurs... Vous jumelez des conducteurs avec des gens qui ont besoin de se rendre quelque part.
C'est ça. Oui, et qui n'ont pas d'alternative. Donc là, puis vous pouvez le calculer, à partir de ce seuil-là, on commence à avoir un impact sur la fluidité. On n'enlève pas la congestion, on appelle ça la fluidité.
Là, vous aviez combien de voyages? On appelle ça des voyages?
On est à plusieurs milliers maintenant là, sur une base mensuelle. Donc
combien?
Ça dépend des jours de la semaine. Les mercredis, il y en a plus.
En moyenne?
C'est autour de 5000. Fait que ça commence, puis c'est par grappe. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on est pourri.
Fait que vous enlevez 5000 véhicules par semaine en moyenne,
ben,
c'est ça?
C'est vers là que ça s'en va, oui. Ouais. Ben évidemment, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est la personne, est-ce qu'elle aurait pris son auto? Est-ce qu'elle était dans un autre mode? Elle faisait-tu du vélo? Là, il fait beau, fait que les gens sont en vélo. Mais nous autres, quand Bixi est sorti, là, on a vu une chute immédiate dans les usagers parce qu'il y avait une alternative moins chère et plus rapide. Les gens font du vélo à Montréal parce que c'est le mode le plus rapide, de loin.
Tout à fait. Bon, il faut aller à la pause. Désolée, tout le monde ne veut pas parler ici. J'ai plein d'auditeurs qui veulent intervenir. On vous parle après la pause. Restez là, bougez pas. Bonjour Mohamed, est-ce que vous subissez vous aussi les coups de la congestion?
Oui, excusez-moi, j'ai vécu un calvaire. Maman, qu'on sait, pourquoi ne pas mettre l'île de Montréal en quarantaine?
Oh ben non, là Mohamed, là, déjà que c'est assipé comme ça, pas en quarantaine.
Non, je sais. Non, mais excusez-moi, pas sur le plan de la santé, mais il y a tellement de chantiers que... On ne peut pas s'y rendre à un endroit. Ça m'a pris hier plus de 2 heures de temps pour me rendre à Décarie. Je viens demain de Saint-Constant. Et des déviations ensuite pour me retrouver sur l'autoroute 13. J'ai dû appeler la radio 730 pour m'indiquer le chemin pour me rendre à Décarie. Alors que ça me prend 20 minutes pour me rendre là-bas. Ça n'a vraiment pas d'allure.
Non, ça n'a pas d'allure.
Un vrai calvaire, excusez-moi de l'expression, mais ils doivent absolument la mettre en quarantaine l'île de Montréal. pour arrêter toute activité, il faut vraiment qu'ils finissent avec les chantiers.
Oui, mais imaginez, là, je comprends ce que vous voulez dire toutefois, là, que c'est insupportable, puis que c'est devenu imbuvable, puis qu'on n'en peut plus. Et c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la réglementation. Vous disiez, ouais. Marc-Antoine Tuca, qui a donc fondé Netlift. Il faut le dire, d'ailleurs, ça existait bien avant que Jean-François Lisée découvre cette application-là.
Bien sûr.
Parce que vous l'avez lancé il y a quoi, une couple d'années, là, déjà?
Presque 6 ans, bon. L'incorporation. Puis, effectivement, l'équipe de M. Lisée sont venus nous voir au mois de mai pour en discuter.
Quand vous dites, là, réglementation, il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, là?
Il y a une foule de détails. En fait, techniquement, le covoiturage peut fonctionner de façon totalement indépendante en relation directe avec les hôpitaux. Certains, ce sont nos clients. Des grandes entreprises ou des groupes de commerçants, développement économique d'une rue Sainte-Catherine, d'une rue Saint-Laurent, du marché Jean Talon. Pour nous, dans le software, c'est assez simple. Vous avez une zone de destination. Exemple, un commerce, un restaurant, vous prenez un rendez-vous ce soir. Vous avez
le commerce de Toby. Là.
OK, prenons un exemple.
Là, il y a moins de clients.
Parlons de mon commerce. Toby a un commerce sur Saint-Laurent.
Je vais y aller.
Il s'appelle le Franco, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, Franco. Bienvenue tout le monde.
On voit c'est où et on veut se rendre. C'est un super endroit. C'est vibrant comme quartier. J'habite à un endroit où me rendre là peut me prendre soit beaucoup de temps, soit le stationnement est compliqué. Je sais quoi mes options. Nous, on a complètement rayé ça. On dit, bookez-vous d'avance. On va aller... Franco va aller vous chercher à la maison, puis il va vous ramener. Là, vous dites, ben, le taxi fait ça. Personne ne va payer 150$ de taxi aller-retour. Si vous le planifiez sur Netlift, si vous acceptez de faire une légère concession sur votre flexibilité, bien là, nous, on est capable de faire un deal avec eux. Parce que, encore une fois, le commerçant...
Avec le commerçant.
Ben oui. Si moi, j'amène des clients à son commerce, puis que le commerçant est capable de mettre un petit 20$, le passager va dire, ben moi, pour 10$ aller-retour, je suis capable, mais ça aurait été le prix de mon stationnement, de mon essence, sauf que là, je me casse plus le basic. La planification en transport permet de décloisonner une foule de détails.
Mais vous saviez que vous tenez quelque chose assez faible entre les mains. Hein?
Je le sais, ça prenait le temps de le faire. Sans le taxi,
ça peut être même, ça peut être la livraison également.
Pour moi, Elisabeth, c'est une
révélation. La livraison,
c'est
devenu hors de prix.
Ouais. Je sais,
pour moi, c'est une révélation ce matin parce que je me dis, on parlait justement plus tôt comment, pour moi, étant enclavé avec mon commerce, c'est impossible pour moi d'avoir de nouveaux clients à part quand des gens emménagent dans le quartier. Puis souvent, c'est parce que quelqu'un est parti. Alors, c'est un renouvellement de clientèle plutôt qu'une augmentation de ma clientèle. Si on me dit que là, pour un coût d'acquisition, en payant un lift à quelqu'un, je peux l'attirer dans mon commerce puis acquérir de nouveaux clients, moi, j'embarque là-dedans tout de suite. Là.
Mais t'es prêt à payer combien pour ça? C'est tout ça, c'est combien t'es prêt à payer?
On parle de 20$ là, pour 3-4 clients, là, aucun problème avec ça.
Et il faut qu'ils t'achètent plus à 5, que du couscous, un sac de couscous à 3$.
À 5$ de coût d'acquisition de clients, c'est dans ce qu'il y a de moins cher sur le marché, c'est moins cher que de faire la publicité Facebook.
Oui.
Ah, vu comme
c'est,
ça.
C'est moins cher que le parking. Ouais, ouais. Puis de toute façon, quand les gens ont déjà dit dans l'app qu'ils rentrent, là, puis nous, on peut fournir le data, on va vous envoyer les gens qui ont tapé rue Saint-Laurent, tel quartier, tel code postal, Franco. Les outils de recherche dans l'app, les gens, on sait où ils vont. On sait à quelle heure ils veulent y aller. On va dire, bon, ben là, on s'attend à ce que tantôt, là, tu vas recevoir 18 nouveaux clients vers 6h30. Ils devraient arriver, là. Parce qu'ils sont planifiés. Fait qu'il est capable de...
Ça nous permet d'organiser l'expérience.
À quelle heure les gens veulent faire leur...
Tout, là.
Ah oui, à quelle heure vous voulez faire l'épicerie? Ben moi, le samedi avant midi, j'ai le temps d'aller faire mon épicerie. Parfait, on va vous chercher, vous avez 2 heures. Ben, les gens peuvent planifier leur journée du samedi en étant sûrs qu'il y a du service, ils n'arrivent pas en retard. Moi, des fois, je vais faire des commerces, j'arrive, je suis en retard, c'est fermé. Bon.
Les chauffeurs, sont qui?
Il y a deux catégories.
C'est ça, pour avoir
faut
des
être très précis là-dessus. La catégorie des chauffeurs rémunérés, nous, on travaille avec des taxis. Okay. C'est, pour être conducteur rémunéré sur Netlift, ça prend un numéro de pocket. Donc là, on a 450.
Un numéro de?
Le numéro de pocket, c'est le numéro de certification
sur
de taxi.
Ton permis.
Donc, un individu indépendant qui veut conduire et être payé en profit sur Netlift, c'est impossible. OK.
Faut que t'aies un permis de taxi. C'est important. Merci d'avoir posé la question.
Non, mais c'est un très bon point. Donc là-dessus, nous, depuis plusieurs années, d'ailleurs, notre vice-président, Benoît Julien, c'est l'ancien directeur du bureau du Taxi de Montréal. Alors, on a bâti notre application dans le pur respect de la réglementation au Québec. Mais l'idée, c'est ça. C'est que s'il est 6 heures du matin, il n'y a pas beaucoup de covoitureurs le samedi matin, mais là, on envoie un taxi, sauf qu'il n'y a plus de trafic. Et là, les gens peuvent se déplacer efficacement et économiquement, mais de façon combinée. Et quand on va chercher un covoiturage, il y a un client qui dit, moi, je m'en vais chez Franco, je prends mon auto. Ah ouais, veux-tu amener quelqu'un? Je te paye ton parking. Ou t'as peu, c'est intéressant. Donc là, c'est de la compensation de dépenses. La deuxième catégorie de chauffeurs, c'est des citoyens privés qui ne vont faire que rembourser leurs dépenses. Nous, on calcule ça.
Mais eux, ils n'ont pas de licence de numéro de pocket.
Mais on peut pas, ils peuvent pas faire de profit. Fait qu'on va dire, bon, mais attendez, vous partez du West Island.
OK, mais moi, je peux être Netlift, mettons. Je peux être chauffeuse Netlift.
Oui, vous offrez votre route. Vous partez le matin. Vous, en général, c'est 10 heures le matin.
Mais les assurances, mettons, les gens...
Tout est couvert déjà. La loi au Québec couvre déjà. Parce que vous ne faites pas de profit. Vous partez de la maison, vous venez travailler ici à 10 heures le matin, en général. C'est à peu près toujours la même affaire. Rentrez ça sur Netlift, puis on va vous trouver des jumelages.
On va l'essayer, Monsieur Ducas. On va l'essayer.
C'est la différence avec Uber.
C'est la différence avec Uber.
Je vois plein d'idées créatives dans la tête de Tony.
Il y a des sourires.
Non, mais ces entrepreneurs-là, ça n'arrête pas 5 minutes. Ça a des idées plein la tête. Messieurs, merci beaucoup. Je pense que ça a allumé beaucoup de gens sur le covoiturage. On va faire une autre discussion là-dessus.
Prochaine fois.
Merci à tous les trois. Merci bien.
Merci Isabelle. Bonne journée.